Eh bien, ben oui, nous fêtons Pâques aujourd'hui. C'est en 625 qu'a été fixée la fête chrétienne de Pâques. En France, on arrête de faire sonner les cloches du jeudi au samedi qui précède Pâques. J'ai entendu aucune cloche. Le mot Pâques est au pluriel depuis le XVIe siècle, époque à laquelle le singulier a désigné la fête juive et le pluriel la fête chrétienne. D'après la légende, les cloches se rendent à Rome pour se charger d'œufs de Pâques qu'elles distribuent à leur retour dans les jardins. Au Moyen Âge et après, les gens coloriaient les œufs en rouge. Pourquoi le rouge? Bien tout simplement parce que le rouge symbolisait le sang de Jésus qui a coulé sur la croix et le mot Pâques signifie passage. Et tous les détails, bien sûr, sur l'origine de Pâques, de cette fête en tout cas, se trouvent dans l'Exode au chapitre 12, le sacrifice pascal qui a précédé la libération du peuple hébreu de l'Égypte et le passage de la mer Rouge, donc de ce peuple, avec Moïse à sa tête. Le passage. Pessa. Le sang d'un agneau sans défaut était étalé sur les linteaux des portes, des maisons, et lorsque l'ange de la mort passait, eh bien, les habitants de ces maisons étaient épargnés. Le seul sacrifice qui s'est fait, d'ailleurs, en dehors du temple de Jérusalem, en plein pays païen. Ça fait réfléchir. C'est intéressant. Alors, tout ce qu'on a vu là, c'est intéressant de voir les réponses de toutes ces personnes sur la signification de Pâques. Moi, ça m'attriste un peu quelque part, ça me fait sourire au départ, puis après, ça m'attriste un peu parce que je me dis, mais on passe à côté de quelque chose qui est absolument, enfin, je sais pas, mais phénoménal, je sais pas comment le qualifier, fabuleux, fantastique, merveilleux, parce que finalement, c'est quoi qui fait le plus peur aux humains? C'est-à-dire que ces gens, la plupart des gens, ne se pose pas, même pas la question de l'existence, finalement, au travers de Pâques, parce que c'est de notre existence dont il est question. C'est pas uniquement une fête où on mange des chocolats. Cette fête a un rapport direct avec l'existence, avec notre vie, avec notre passage sur Terre. C'est quoi qui fait le plus peur aux gens? Aux êtres humains, en fait. D'ailleurs, il y en a qui ont très bien compris. Qu'est-ce que c'est qui les terrorise le plus? Qu'est-ce que c'est qui terrorise le plus les gens? C'est pas les terroristes, c'est les conséquences du terrorisme. Bien sûr, les conséquences parce que finalement on se sent plus libre, notre liberté est restreinte, etc. Mais le fond, c'est la mort. Un jeune chrétien qui était à Bruxelles, il venait de se convertir. Vous avez peut-être vu à la télé sa copine qui l'attendait aux États-Unis. Lui s'appelle Bart. Il est connu par une équipe GLO. J'ai reçu un email il y a 2 jours. Et bon, voilà. Il a pris l'avion pour aller rejoindre sa copine aux États-Unis. Ben, il est décédé à Bruxelles, donc c'est dans cet aéroport. Un jeune, je sais pas, 23 ans à peu près. Même pas. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux êtres humains? Eh bien, c'est la mort. Parce qu'en une fraction de seconde, eh bien, notre corps, et le corps le plus sportif, le plus musclé, le plus animé, perd toute sa capacité de bouger. La mort, c'est l'arrêt de la communication. La personne qui est morte devant toi ne communique plus. Elle ne bouge plus. En quelques instants, tout est terminé. Il y a des définitions qui disent que c'est la perte irréversible de la conscience et l'incapacité d'une interaction sociale. En quelques minutes, tout se relâche. Les fluides du corps s'échappent. En quelques jours, le corps développe une rigidité complète et commence à sentir mauvais. Très mauvais. En moins d'un mois, le processus de décomposition a commencé. Et l'homme, conformément au jugement de Dieu sur le péché d'Adam, retourne à la poussière. Nous mourrons tous. Tous. Tous les gens qu'on a entendu parler aussi. Tous. Personne ne peut y échapper. Et en tant que chrétien, il y a quelque chose qui me réconforte quand même. Cette phrase de l'apôtre Paul l'a exprimée ainsi, il a dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. » Et quelqu'un un jour a dit que la Pâque, hein, c'est le clou planté dans la paroi de la montagne et tout est suspendu à ce clou. Tout est suspendu à ce clou. La vérité de l'incarnation, Jésus, Fils de Dieu, le Vendredi Saint, l'authenticité de la Bible, la crédibilité de la parole de Dieu, l'identité de Jésus-Christ, le pardon de nos péchés, la raison d'être de l'Église, notre raison d'être, là, ce matin, on est là, dimanche après dimanche, hier on a fêté le mariage, tout est suspendu au-dessus de l'abîme du désespoir, tout est suspendu à ce clou, et si il cède, tout s'effondre, tout, absolument tout. Toutes les prédications du dimanche, la bénédiction du mariage hier, tout s'écroule. Les béatitudes, il n'y en a plus. Plus de paraboles, plus de véritable amour, plus de miséricorde, plus rien. C'est le vide, c'est la mort. La femme adultère, que les religieux allaient lapider et qui a été pardonnée par Christ, va et ne pêche plus, trompée. Les aveugles, les sourds, les malades, les estropiés, les démoniaques qui se croyaient guéris, je dis qu'ils se croyaient, ben, ils se croyaient. Le brigand sur la croix, qui a celui qui a accepté Christ, qui a reconnu en Christ le Messie, celui qui n'avait rien fait et qui ne méritait pas ce qui lui arrivait, où Jésus lui a dit « Toi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Eh bien lui, il est nulle part. Si le clou de la Pâque cède, tout ça cède en même temps. Vous imaginez un peu les conséquences? Ça, c'est les conséquences négatives. Mais les conséquences positives, ils y sont. On va les voir un peu. Tromper tous ceux qui ont cru autrefois et maintenant, tromper nous tous qui croyons, tromper toute l'Église qui se rassemble au nom de Jésus-Christ. Et si je moi-même je serais en train de vous tromper ce matin si la résurrection n'avait pas eu lieu. Ce que je suis en train de vous dire n'aurait pas de sens. On aurait mieux fait de dormir une heure de plus, quoi. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Un jour de sabbat, Jésus est entré dans une synagogue, il s'est mis à lire le rouleau du prophète Ésaïe. Imagine, Jésus il rentre dans cette salle, il vient devant nous, et se met à lire un texte qui le concerne. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 18 à 21, voilà ce qu'il a lu. On se met dans la scène, hein, imaginez, hein, un peu comme nous, hein, un lieu de culte. Et voilà que cet homme se lève, et il dit, voilà, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, est accompli. » Essayons de commenter juste les premiers versets. Le premier, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Je ne pense pas qu'il y ait des gens riches ici ce matin. Mais vous avez tous compris que Jésus ne s'adresse pas à ceux qui sont pauvres matériellement, mais ceux qui se sentent pauvres spirituellement, intérieurement. Ceux qui ont peut-être pas d'argent, mais surtout ceux qui ont le cœur vide, ceux qui voudraient que ça change dans leur vie, ceux qui souhaiteraient au fond qu'il y ait quelque chose après, et qui souhaiterait même qu'il y ait quelque chose, pas uniquement après, mais maintenant. Et quand je vois toutes ces personnes en train de parler dans cette vidéo, je me dis, mais je suis sûr, si tu poses la question différemment, tu enlèves Pâques. Et tu poses la question, mais qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie? Qu'est-ce que c'est qui, c'est quoi qui te... Alors, il y en a qui vont dire, j'aimerais gagner au loto, c'est sûr. Mais plus que ça. Il y a des gens dans ta vie, il y a des gens qui sont partis, que tu aimais profondément, qui ont transformé ta vie quelque part, et tu sais qu'ils sont partis dans l'au-delà. Ben, moi, j'aimerais bien les revoir. Déjà, c'est un premier point. Tu te rends compte, tout ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que nous vivons ensemble, ben, ça serait terrible de pas se revoir. Qu'à un moment donné, ça soit tout fini, quoi. C'est terrible, ça. Des fois, je me pose la question, par rapport à Pâques, et je me dis, mais est-ce que je me sens vraiment pauvre intérieurement? Dans le, je sais pas si vous connaissez le groupe Queen, le chanteur Freddie Mercury, il est mort du sida en 91, dans son dernier album, The Miracle, il dit, écoute bien, quelqu'un sait-il pourquoi nous vivons? Quelqu'un sait-il pourquoi nous vivons? Il pose cette question. Plus de 100 millions de dollars de fortune, des milliers de fans, des milliers de fans. Et au cours d'une interview, peu avant sa mort, il déclarait ce qui suit, je cite, « On peut tout posséder et demeurer l'homme le plus seul de la terre. Et c'est bien là la plus cruelle des solitudes. La réussite a fait de moi une idole au plan mondial et m'a apporté des millions, mais elle m'a privé de la seule chose dont nous avons tous besoin, une relation d'amour durable. » Une relation d'amour durable. Et c'est une des choses dont nous avons tous besoin. Et le premier changement que Jésus a fait, en tout cas a fait dans ma vie, fait dans notre vie, c'est de nous donner le sentiment d'être aimés comme nous sommes. Nous sommes aimés comme nous sommes. Tu es aimé de Christ comme tu es, avec tes défauts, avec tes qualités, avec tes luttes, avec tes échecs. Tu es aimé. Et la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est que nous pouvons avoir une relation durable avec ce Dieu qui désire être notre Père. Comme dans cette histoire que Jésus raconte du fils prodigue, où le Père attend ce fils qui est parti loin de lui. Il le guette par la fenêtre de la maison, et quand il le voit arriver, le fils n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que le père est sorti et il prend son fils dans les bras et il l'embrasse. Ça, c'est la relation que Christ, que Dieu veut avoir avec nous. C'est fabuleux. Il nous aime comme nous sommes. Simplement, il attend que nous regardions à lui, que nous reconnaissions aussi notre pauvreté. Et le jour où j'ai donné ma vie à Christ, c'est comme si je voyais enfin ma vie sans, vous savez, on a des décodeurs, comme pour voir Canal+, par exemple, il faut un décodeur. Moi, j'avais un copain, il regardait les matchs de l'OM avec le sans le décodeur. Et quand il entendait pshhh, il savait qu'il y avait un but qui avait été marqué, tu vois. Et en fait, je crois vraiment que la vie avec Jésus, c'est une vie avec le décodeur. C'est-à-dire que c'est comme si l'image de notre vie devenait plus nette. Tu vois? C'est comme si l'image de ta vie avec Christ, elle devenait plus perceptible, plus nette. Tant que t'as pas le décodeur, ta vie, tu la vois pas vraiment. Et c'est là que toutes ces personnes qui répondent à cette question, mais qu'est-ce que c'est Pâques pour vous? C'est tellement triste de les entendre répondre ce qu'ils répondent. Leur réponse, c'est triste. Ils ne se rendent pas compte que c'est plus que le commercial et les œufs. C'est plus qu'une fête religieuse. C'est le décodeur. C'est pour décoder ta vie. C'est ce qui va permettre à ta vie de prendre une dimension que tout le monde espère au fond de soi, finalement. Parfois, je me dis que on est parfois pointilleux dans nos vies sur certaines choses qu'on ne devrait pas l'être. Parce que notre vie est un souffle. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des choses secondaires. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des choses qui finalement ne changent rien à l'amour qu'on peut avoir, qu'on peut recevoir de Dieu et qu'on peut avoir les uns avec les autres. Il y a des choses qui ne relèvent de rien du tout. Parfois, on se prend la tête pour une rayure sur la voiture, pour un verre qui n'est pas à sa place, pour je sais pas. Parce que la fleur, elle est ici, elle devrait être là-bas. On s'en fout complètement. On n'en a rien à glander de ces choses-là. On se prend la tête pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tu t'imagines? Tu te prends la tête pour des trucs, pour un truc. Des fois, je me dis, mais je peux avoir, je sais pas, une dispute, quelque chose dans ma famille, avec ma femme ou avec mes enfants. Et dans la nuit, je meurs. Tu te rends compte ce qui reste là? Tu te rends compte? Tu te prends une réflexion. Moi, je me suis pris une réflexion par mon grand-père avant qu'il meure. Ça m'a travaillé pendant des années. Pendant des années. Parce qu'il y a des choses qu'on croit qu'on peut les réparer le lendemain, mais c'est pas possible de les réparer le lendemain. Parce que demain, Dieu te reprend. En tout cas, beaucoup de gens semblent heureux, tout à fait heureux sans le décodeur. Ils ne se doutent pas un instant que c'est beaucoup mieux avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est comme regarder un match de foot sans le décodeur Canal+. Il y en a qui préfèrent voir les choses comme ça, de ce point de vue-là. Surtout que là, c'est gratuit, hein, le décodeur avec Christ. Mais bon. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je sais que beaucoup de gens ont le cœur brisé. Je sais qu'on ne peut pas vivre une vie sur terre sans avoir au moins une fois le cœur brisé. Plusieurs fois, certainement, tu as eu dans ta vie le cœur brisé. Un événement que tu n'attends pas. Tout s'écroule. La perte d'un être cher. Je sais pas. Plein de choses te permettent de réaliser combien le fait que Jésus est vivant et présent dans ma vie, ben, ça me permet de ne pas tout perdre. Il reste quand même quelque chose. Et lorsqu'il arrive quelque chose de terrible aux gens qui ne connaissent pas Jésus, tous leurs espoirs volent en éclats, il ne reste rien. C'est comme ce clou planté dans la paroi. Je connais un homme qui, tous les jours, va passer des heures dans un cimetière. Il y a 20 ans, il a perdu sa fille. Il est brisé. Cet homme attend une seule chose, rejoindre sa fille. Mais je le comprends. Oh, combien je le comprends. Je ne dis pas avec Jésus, c'est pas facile. Je dis simplement que même si une situation nous anéantit, le fait que Jésus soit présent dans notre vie, en tout cas, c'est mieux que s'il était absent. Déjà, à la base. Sa résurrection nous permet de voir au-delà de cette vie, au-delà de la mort, de cette mort qui est pesante. Peut-être que ça nous aide mieux à comprendre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce qu'il a vaincu la mort et le mal. Jésus donc peut nous restaurer, peut porter, reconstruire une vie brisée. On l'a dit hier, pendant le mariage, n'est-ce pas? Il peut redonner un nouveau départ à n'importe quelle situation. Changer de vie, c'est possible avec lui. Retrouver la paix, c'est possible. La suite, c'est pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Jésus est libérateur. J'ai une question. Je me la pose à moi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie dont tu as besoin d'être libéré? Est-ce que tu es captif de quelque chose? Est-ce que tu as identifié quelque chose qui te bloque? Est-ce que ta joie est bloquée? Est-ce que ta paix est bloquée? Est-ce que tu as déjà pensé que la résurrection de Jésus pouvait faire quelque chose à ça, à ce souci? On a des blocages. Tous, on a des blocages. Tous ceux qui sont assis ici, et moi qui suis là en train de vous parler, on a tous des blocages qui sont liés à notre éducation, à notre façon à notre vie, au déroulement de notre vie, à ce que nous avons vécu, à ce que nous avons peut-être pas vécu, à ce que nous avons espéré, que nous n'avons pas eu, etc. On a tous des choses dans nos vies qui nous travaillent. Il y a des blocages aussi. Des choses qui nous permettent, qui nous empêchent en tout cas d'avancer. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. On croit, on aimerait être plus ceci ou plus cela. Moi, je vois des personnes, parfois, elles sont dans une sorte de, comment dire, elles n'arrivent pas à se réjouir. Je vois des chrétiens comme ça. Ils n'arrivent pas à se réjouir. À se réjouir des cadeaux de Dieu. Ils n'arrivent pas à prendre plaisir à ce que Dieu leur donne. C'est quand même dur, ça. Ils vivent comme accablés. Tu vois? Ça, c'est un problème pour notre vie chrétienne, si on vit de cette manière-là. De quoi est-ce qu'on peut être prisonnier? Mais en tout cas, Jésus vient nous parler de la prison des prisons, hein, celle qui nous emprisonne dans notre péché. C'est ce qui nous emprisonne dans notre non-respect de Dieu. Prisonnier de nos mauvaises habitudes. Et puis, Jésus, il dit, pour proclamer donc aux prisonniers la délivrance, et puis aux aveugles le recouvrement de la vue. Un jour, Jésus, il a guéri un aveugle. Et nous sommes tous, finalement, au travers de cette histoire, on le comprend bien, des aveugles de naissance. Nous ne voyons pas Dieu. Nous ne le voyons pas. Parfois même, en tant que chrétiens, nous ne le voyons même pas à l'œuvre dans notre vie. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'il est à l'œuvre, qu'il est en train d'agir. Et parfois, on ne se rend même pas compte qu'il est en train d'agir aussi au travers de choses qui nous déplaisent. Parce que nous avons pensé les choses de cette manière, mais Dieu les pense d'une autre manière. Et ça ne marche pas. Et tu te dis, mais ça marche pas. Mais en fait, on devient amer et on se rend pas compte qu'en fait, c'est le plan de Dieu. Il y a une sorte de chrétien qui plane aussi. Je veux dire, si ils ne sont pas guéris, si ils n'ont pas la joie, s'ils n'ont pas le regard qui brille tous les jours, waouh, c'est la catastrophe, hein, Dieu les a abandonnés, quoi. Et ils se rendent pas compte que parfois les épreuves de nos vies ne sont pas là pour nous accabler, elles sont là pour nous faire grandir. Grandir. Parce que sans ça, on grandit pas. Malheureusement. Moi, j'aimerais bien avoir une vie sans épreuves, sans soucis, mais malheureusement, c'est là que notre vie avec Christ, avec ce décodeur, la dimension de notre vie est complètement différente. Mais c'est vrai que nous sommes humains. Et qu'on a tendance à retomber dans nos travers. En tout cas, on peut vivre l'expérience avec Christ. On pourrait dire, comme cet aveugle, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et Jésus a dit qu'il est venu pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année. Il s'agit d'une année de jubilé, qui revenait tous les 50 ans dans le Lévitique. Une année de grâce et une joie universelle où on arrêtait de travailler, où on libérait les esclaves, les dettes étaient acquittées, les prisonniers amnistiés. Et ça, c'est la grâce. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est la grâce. Cette année était une image du règne du Messie. Comment pourrait-il régner de cette façon s'il n'est plus en vie? Comment il pourrait régner de cette manière-là s'il est mort et enterré, comme le commun des mortels? Comment pourrait-il régner dans notre vie même s'il n'est pas ressuscité? S'il n'est pas ressuscité, nous sommes toujours des esclaves, des prisonniers, et la dette du péché pose toujours sur notre tête, sur nos épaules. Le prophète ne s'est pas trompé. Ésaïe 53, on va le lire, versets 1 à 12. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, à qui le bras de l'Éternel s'est révélé, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qui, devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qui était, de ce qu'il était retranché de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. » Le prophète s'est pas trompé, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Et Jésus est entré là où moi je peux pas rentrer. Il est allé là où moi je pouvais pas aller. Son cœur s'est arrêté de battre afin que le mien puisse battre. Ses yeux se sont fermés afin que mes yeux puissent s'ouvrir. Alors qu'est-ce que nous apporte la Pâque aujourd'hui ? Le pardon de toutes nos fautes, en tout cas de ce que nous sommes, de nos péchés, de nos échecs. Ça nous donne aussi l'opportunité de tout recommencer. On recommence notre vie sur de nouvelles bases. Et puis on a l'espérance de revivre un jour. En tout cas, nous sommes déjà revenus à la vie quand Christ est entré dans notre cœur. Nous sommes déjà revenus à la vie, mais nous attendons aussi la résurrection finale, celle de notre corps, celui qui va à la poussière. Mais on va avoir une résurrection aussi. Et comme Jésus est revenu à la vie, nous avons aussi la possibilité de revenir à la vie pour un monde tout neuf, sans souffrance, sans maladie, sans tristesse. Nous avons aussi la possibilité de voir nos prières entendues, exaucées. Et ça, toutes ces choses-là tiennent au clou de la résurrection. Pâques. Que Jésus est mort pour nos fautes sur la croix. Qu'il est revenu à la vie pour nous. Dans Matthieu 28, vous savez, vous rappelez quand Jésus est au tombeau, les femmes y vont, hein. Vous cherchez Jésus? Ben, il n'est pas là. Il n'est pas ici dans le tombeau. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez l'endroit où il était couché. En fait, il n'y avait plus personne dans l'endroit où il était couché. Tous les tombeaux des prophètes, les fondateurs de religion, on peut les trouver. Mais celui-là, on le trouve, mais il est vide. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Où il était couché. Pour terminer, juste, je cite, pour que ça ait une résonance aussi dans pour notre avenir. Parce que finalement, Pâques, c'est la résonance pour notre avenir. Pour ce qui va arriver. Au chapitre 1er de l'Apocalypse, où Jean écrit aux 7 églises qui sont en Asie, et il commence en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Et là Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je vais prier. C'est vrai, Seigneur, qu'on célèbre semaine après semaine, dimanche après dimanche, un petit peu de ta résurrection, puisque on prend ces éléments, le pain et le vin, on le célèbre, et ce jour est particulier parce que on veut se souvenir, on veut réaliser plutôt, parce que c'est bien plus qu'un souvenir, mais on veut réaliser pour aujourd'hui que tu es vivant. Seigneur, veuille bénir chacun d'entre nous dans nos doutes, dans notre scepticisme parfois. Tu es réellement ressuscité. Tu es vivant, tu es au milieu de nous. Tu es en nous, tu es avec nous. Et quoi qu'il puisse arriver ici-bas, nous avons cette assurance, comme disait l'apôtre Paul, que tu es ressuscité. Et nous serions les plus malheureux des hommes si ce n'était pas le cas. Seigneur, veuille renouveler notre enthousiasme et notre joie de ta résurrection. Donne-nous de l'intégrer à nos vies, de l'embrasser, de la chérir. Tu es vivant, tu es vraiment ressuscité. Amen.